Merci d'écouter RFI, 7h30 à Paris, 6h30 à Kinshasa.
RFI Matin.
Et 5h30 en temps universel. Bonjour Nemo Ampis.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
La République démocratique du Congo dans ce journal est le ministre de la Justice qui pourrait tout bientôt être jugé.
Constant Mutamba, accusé de détournement de fonds publics dans le cadre d'un projet de construction d'une prison à Kisangani. Les députés ont favorablement accueilli la requête du procureur général près la Cour de cassation. Ils sont déjà 12, ils pourraient être 48. Ces pays sur la liste du travel ban et dont les ressortissants sont interdits d'entrer sur le territoire américain. Parmi les 36 petits nouveaux potentiellement concernés, 25 sont africains, dont la RDC, le Gabon ou encore le Cameroun. À suivre aussi la vieille histoire du soutien sud-africain à la cause palestinienne et puis des alliances fragiles au Cameroun entre le parti au pouvoir de Paul Biya et les partis du Grand Nord. Tout cela à quelques mois maintenant de la présidentielle. Et si Constant Mutamba se retrouvait tout bientôt devant la justice de son pays, l'hypothèse est de plus en plus plausible après que les députés congolais ont autorisé le procureur général près la Cour de cassation à déférer le ministre de la Justice. Il est accusé de détournement de fonds publics dans le cadre d'un projet de construction d'une prison à Kisangani dans le nord-est du pays. RFI Kinshasa, Pascal Mouligua.
C'est à huis clos que les députés ont tranché. Sur les 363 présents, 329 ont voté en faveur de poursuites contre les ministres de la Justice Constant Mutamba. Ces faveurs ouvrent la voie à l'ouverture d'un procès dans les tout prochains jours. Quant au ministre inculpé, il devrait démissionner comme le prévoit la loi en ces débuts de semaine. Constant Mutamba, 37 ans d'âge, est accusé d'avoir transféré 19 millions de dollars vers une société privée dans le cadre d'un contrat de gré à gré portant sur la construction d'un établissement pénitentiaire à Kisangani. Un contrat de 29 millions dont 65% venait d'être versé alors que la loi sur les marchés publics limite les acomptes à 30%. Les contrats n'avaient pas été autorisés par la première ministre. Les députés et les procureurs estiment que cette somme aurait pu être détournée si la cellule nationale du renseignement financier n'avait pas gelé les comptes bénéficiaires à temps et tiré la sonnette d'alarme. La société en question est décrite comme un fantôme sans bureau connu ni personnel et encore moins d'expertise. Les rapports votés par les députés affirment aussi que les sites devant recevoir l'ouvrage n'existaient pas. Pascal Mouligua, Kinshasa, RFI.
Et les proches de Constant Mutamba estiment qu'il ne peut être question de détournement, les fonds n'ayant pas été perçus par l'entreprise. Pour eux, le ministre est victime, je cite, de ses réformes judiciaires et des réseaux mafieux mis à mal. J'ajoute que l'Assemblée nationale a refusé d'examiner le deuxième réquisitoire du procureur Firmin Mvonde, portant sur des accusations d'outrage au corps constitué et incitation au manquement envers une autorité publique. La RDC ou le ministère de l'Intérieur met à jour le bilan des inondations qui ont touché la capitale dans la nuit de vendredi à samedi. Au moins 29 personnes ont perdu la vie dans 8 communes de Kinshasa. Autre bilan renouvelé, au moins 48 corps repêchés après le naufrage de 3 pirogues sur le lac Tumba dans la province de l'Équateur. 107 passagers sont toujours portés disparus. Et puis ce rapport parlementaire qui vise Gécamines, la compagnie d'État minière, et qui fait état d'une gouvernance conflictuelle et calamiteuse, alimentée notamment par une gestion centralisée à distance, un mépris des obligations sociales et des décisions irrationnelles qui ont entraîné la perte de plusieurs dizaines de millions de dollars l'an dernier. Ce rapport qui avait été remis le 9 juin dernier au président de l'Assemblée nationale, Vidal Caméré. Vous en lisez les détails sur notre site internet rfi.fr. La RDC qui pourrait se retrouver sur une liste élargie du travel ban américain. Entré en vigueur lundi dernier, il concerne déjà 12 pays, dont 7 africains, mais Washington envisagerait d'ajouter 36 pays supplémentaires, dont pas moins de 25 issus du continent. L'administration américaine souhaite que ces pays s'affranchissent de certaines conditions de sécurité pour en être exempté. Depuis Atlanta, la correspondance d'Edouard Maille.
36 pays concernés, dont 25 pays africains, parmi lesquels la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Niger ou le Sénégal, selon un document consulté par le Washington Post et ensuite par Reuters. Le document a été signé par le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, et envoyé samedi aux diplomates dans les pays concernés. Ces pays disposent de 60 jours pour remplir certaines conditions. Selon Washington, certains pays ne seraient pas en mesure de fournir des documents d'identité fiables ou auraient trop de fraudes dans l'administration, et pour d'autres, un nombre important de leurs ressortissants aux États-Unis aurait dépassé la date limite de leur visa. La mesure s'ajoute aux interdictions d'entrée sur le territoire décrétées début juin pour 12 pays, dont la République République du Congo, le Tchad ou Haïti, et des restrictions pour d'autres pays comme le Togo ou le Burundi. Donald Trump avait justifié ces mesures pour des raisons de sécurité nationale. Edouard Maille, Atlanta, RFI.
Je précise certains des pays non cités dans le sujet d'Edouard Maël, le Bénin, le Cameroun, le Gabon ou encore le Burkina Faso. RFI, 7h35 à Pretoria, à moins d'une demi-heure maintenant de la première édition spéciale consacrée à la situation au Proche et Moyen-Orient. Journée événement sur la radio du monde. Israël, Iran, un nouveau front qui ne doit pas occulter la situation humanitaire à Gaza. Et justement, parmi les pays les plus impliqués dans le soutien à la cause palestinienne, on retrouve l'Afrique du Sud, qui pour rappel avait saisi la CIJ, Cour internationale de justice, contre Israël pour génocide dans l'enclave palestinienne. Un soutien très marqué sur place, aboutissement d'une très longue histoire de lutte, comme nous le dit Roshan Dadou, elle est coordinatrice du collectif BDS, Boycott des investissements, sanctions contre Israël.
Durant notre lutte contre l'apartheid, nous étions proches de l'organisation de libération de la Palestine et des liens étroits se sont développés entre nous. Rappelez-vous, à la fin de l'apartheid, Nelson Mandela a dit « Notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens ». C'est un sentiment qui est resté ancré dans la société sud-africaine et c'est ce qui nous a poussé à saisir la Cour internationale de justice contre Israël. Ça a été une action historique, surtout venant d'un pays du Sud, qui plus est l'Afrique du Sud. Donc il y a toujours eu ce sentiment que nous, Sud-Africains et le peuple palestinien, partageons un même combat. Et puis nous avons une expérience commune, l'oppression. Ce ne sont pas exactement les mêmes régimes, mais ils sont modelés sur les mêmes principes de domination blanche, de nationalisme ethnique, de division. Nous avons souffert, nous les Sud-Africains, comme les Palestiniens souffrent aujourd'hui d'un système d'apartheid.
Roshan Dadou, coordinatrice en Afrique du Sud du collectif BDS. Elle était jointe par Alexandra Branjon et rendez-vous donc dans une petite demi-heure maintenant, édition spéciale autour d'Andréane Mellard, de Sami Boukhelifa, notre correspondant à Jérusalem, et de leurs invités. Cette situation régionale, on en parle également ce matin dans Appel sur l'actualité et dans Priorité Santé. Aucun journaliste ni membre de la société civile ne sont les bienvenus à Mandakao, dans le Logone occidental, dans le sud du Tchad. C'est là-bas que, début mai, des violences intercommunautaires ont fait une quarantaine de morts et à la suite desquelles l'opposant et ancien premier ministre Succès Masra a été arrêté, accusé d'avoir incité à ces violences. Et bien ce week-end, le procureur près le tribunal de grande instance de N'Djamena a interdit toute enquête dans le village. Selon lui, il s'agit de ne pas empiéter sur les prérogatives de la justice. Journalistes et société civile dénoncent de leur côté une volonté de cacher la vérité sur ce qu'il s'est passé. Esdras Dikoumana.
Pour la justice tchadienne, l'intervention des journalistes et de la société civile pourrait fausser les investigations en cours. Le procureur près le tribunal de grande instance de N'Djamena leur a donc lancé une sévère mise en garde. Ne retournez pas Mandakao pour mener vos propres enquêtes, Oumar Mahmat Kedelaï.
Des juges d'instruction ont été saisis et ont commencé à poser des actes dans le cadre d'une enquête préparatoire déjà ouverte par le parquet d'instance. Par conséquent, compte tenu de la sensibilité de l'affaire, toute autre démarche parallèle est susceptible de constituer un empiétement sur les fonctions judiciaires ou des usurpations de fonctions et pourrait éventuellement exposer son notaire à des poursuites judiciaires.
Réaction de l'Union des journalistes du Tchad, c'est une grave atteinte à la liberté de la presse et à la liberté d'informer, dénonce le secrétaire général de l'UGT, qui assure que le procureur cherche à faire taire les journalistes, Ange Al-Hassim.
Nous sommes estomaqués par cette déclaration du procureur. Ce que le procureur exige de nous, c'est purement et simplement, c'est le retour à la censure. Ce qui n'existait plus au Tchad depuis 1994. Nous ne disons pas que le secret de l'instruction doit être foulé aux pieds. Nous disons simplement que les journalistes ont le droit d'aller enquêter pour dire ce qui s'est passé.
Et pour un membre de la société civile tchadienne, cette interdiction cache mal, dit-il, la volonté de garder sous cloche la vérité sur Mandakao. Dans quel intérêt s'est-il interrogé ? Sans donner de réponse.
L'Union des journalistes du Tchad, vous entendiez son secrétaire général, elle réclame toujours la libération d'Olivier Mononji, le directeur de publication de l'hebdomadaire Le Pays. Également correspondant de RFI N'Djamena, a été arrêté et incarcéré il y a plus de 3 mois. Cette fois, c'est au tour de l'ONG Human Rights Watch de demander sa remise en liberté provisoire avant son procès. La semaine dernière, le juge d'instruction a requalifié les faits qui lui étaient reprochés en délit d'entretien avec des agents d'une puissance étrangère. Une question, alors que la présidente présidentielle au Cameroun approche à grands pas. Les alliances entre Paul Biya et quelques-uns des partis du Grand Nord, qui représentent près de 40% de l'électorat, vont-elles voler en éclats? Elle se pose depuis Kissa Chiroma, actuel ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, a vivement critiqué le chef de l'État et le résultat de ses 43 ans au pouvoir. Une éventuelle fracture qui pourrait également concerner l'UNDP, dont le président Bello Bouba est mis sous pression par sa base pour rompre l'alliance qui lie le parti avec celui de Paul Biya depuis 28 ans. À Yaoundé pour RFI, Polycarpe Samba.
C'est devant sa résidence de Garoua face à une foule de militants de son parti venus à sa rencontre que Issa Chiroma, pourtant connu comme l'un des défenseurs acharnés du président Paul Biya, a dégainé sa charge. En langue locale et sur un ton véhément, il a dénoncé pêle-mêle la misère ambiante, le chômage et le manque d'opportunités pour les jeunes, tout en les incitant à tourner le dos, sans le nommer, à celui qui, je cite, est responsable de leur malheur depuis 40 ans. Joint par RFI, Issa Chiroma, qui ne nie pas ses propos, explique avoir simplement exprimé le ressenti de sa base militante. Sa position est-elle toujours tenable au sein du gouvernement? À cette question, comme celle liée à l'éventualité de sa candidature à l'élection présidentielle, soyez patient, vous aurez bientôt toutes les clarifications, répond Issa Chiroma. Du côté de l'UNDP, qui est le grand allié du Nord au pouvoir RDPC, les mêmes questions sont sur la table. Les militants à la base poussent son président Bello Bouba, ministre d'État depuis 28 ans, à dénoncer son alliance avec le président Paul Biya. Maïdadi Saïdou, le secrétaire national à la communication du parti, est de cela. Pour lui, l'alliance entre le RDPC et l'UNDP a vécu et Bello Bouba doit se porter candidat à l'élection présidentielle. La question sera tranchée au cours d'une réunion du comité central de l'UNDP convoquée pour ce 28 juin. Pour les Polycarpe Samba Yaoundé, RFI.
Un pari fou pour refermer ce journal. Une traversée de près de 5000 km à vélo de Goma dans l'est de la RDC au Cap en Afrique du Sud. C'est un défi que s'est lancé un jeune athlète de 23 ans. Ça s'appelle Pedals for Peace et c'est Paul Lorgerie qui raconte.
Déjà 2600 km parcourus. Actuellement en pause dans la capitale zambienne Lusaka, Miguel Masaïsaï raconte s'être lancé sur la route le 17 mai.
La première étape était la traversée du Rwanda qui m'a pris juste 10 jours.
Rwanda, Tanzanie, Zambie. Miguel égrène les noms des différentes villes et villages qu'il a traversés, parfois sous un soleil de plomb, zigzagant entre les nids de poules et les camions transporteurs de marchandises. Et parfois seul aussi, comme dans ce parc naturel en Tanzanie.
Il y a un jour où j'avais eu une crevaison en plein milieu de parc. Et heureusement que j'ai eu les matériels pour changer les pneus. Et pour moi, c'était un danger parce que là, je peux rencontrer des animaux sauvages, des mauvaises personnes. C'est aussi parmi les difficultés.
Qu'importe, Miguel, habillé de son cuissard aux couleurs de la République démocratique du Congo, diffuse sur son passage un message de paix et d'unité dans les communautés qui l'accueillent pour la nuit. Sur le réseau social Instagram, il raconte son voyage et invite les jeunes des différents pays à venir à sa rencontre.
À 55 km, avant mon entrée ici à Lusaka, j'ai vu les gens venir. Donc, des cyclistes m'arrêtaient. Ils ont dit, ils sont venus ici pour t'escorter.